Ce matin, je veux parler de comment sauver ton avenir. Tout le monde ici a un avenir. Dieu a un avenir. Et il y a des choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui qui peuvent faire en sorte que dans 6 mois, dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, on va dire « Wow! » À cause de ce que j'ai décidé en 2023, ça a sauvé mon avenir. C'est quand même important. Et ce matin, je vais vous partager un principe du royaume de Dieu extrêmement puissant qui, à lui seul, peut vraiment sauver votre avenir et mon avenir. Je veux parler ce matin de la connexion à la famille spirituelle. Lorsque tu te connectes à Dieu, tu te connectes automatiquement à la famille spirituelle, la famille de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bienvenue dans la famille de Dieu. Dis à ton voisin, bienvenue dans la famille. T'es dans ma famille. Je suis dans votre famille, mes amis. Vous êtes pris avec moi. Je suis dans votre famille, vous êtes dans ma famille. Et une des choses qu'on doit absolument comprendre, que peut-être si vous êtes relativement nouveau dans la foi, ou peut-être que c'est la première fois que vous êtes ici ce matin, une des choses qu'on doit comprendre, c'est que des fois, l'image que nous avons, c'est « je vais à l'église ». On a une idée de « je vais à l'église » ou « une église, il y a un bâtiment, j'arrête, je vais passer 2 heures là, je suis membre à l'église Nouvelle Vie ». C'est bien, mais c'est beaucoup plus grand que ça. En fait, quand Dieu a agi, a créé la terre et a créé l'être humain, eh bien, son but ultime, c'était la colonisation de la terre avec la culture du ciel. C'est beau, cette phrase-là. Si vous avez voyagé un peu dans le monde, si vous avez étudié l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, il y a eu, au travers des siècles, il y a eu beaucoup de colonisation. Par exemple, le Canada est une ancienne colonie britannique. Et j'ai été à plusieurs reprises dans les Antilles, et il y a plusieurs îles des Antilles qui ont été colonisées, par exemple, par la France. Et c'est spécial parce que tu es à des milliers de kilomètres de la France, mais c'est les mêmes panneaux de signalisation, c'est les mêmes magasins qui sont là, et tu es en train de marcher sur le bord de la plage et tu peux te prendre un expresso avec une baguette. Et tu vois que la culture d'un royaume a été implantée dans une autre culture, il y a eu une colonisation. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, spirituellement, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a colonisé la terre avec la culture du ciel. Et donc, quand tu te connectes avec Dieu, tu entres dans la culture de Dieu. Et dans la culture de Dieu, le système que Dieu a établi, c'est pas une organisation chrétienne. Le système que Dieu a établi, c'est une famille. Et il y a plusieurs passages qui nous expliquent ceci, des passages magnifiques. Psaume 68, verset 5, « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. » On a le droit de dire « Amen », c'est tellement beau ce passage. Éphésiens, chapitre 3, verset 14, il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Dieu est le Père, notre Père qui est aux cieux. Dieu est le Père, il a des fils et des filles, nous sommes des frères et des sœurs, Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse. Et c'est pour ça que c'est ultra important ce matin de comprendre la puissance et la beauté de la famille spirituelle. Et je vais vous expliquer dans les prochaines 3 heures à quel point c'est extrêmement puissant, mais 3 célébrations, à quel point c'est extrêmement puissant d'être connecté à la famille de Dieu. Dans la Bible, on appelle ça souvent le corps de Christ, la famille de Dieu. Et, par exemple, ce matin, je veux encourager tout le monde ici dans cette salle à aller après la réunion, il va y avoir des tables. Juste une parenthèse pour vous dire qu'il y a ce qu'on appelle des groupes Nouvelle Vie. Les groupes Nouvelle Vie, ce n'est pas un nouveau programme, ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remplir l'agenda, pour être sûr qu'on ait une église qui se passe plein d'affaires. Non! Les groupes Nouvelle Vie, c'est une façon, une logistique, une méthodologie, si on peut dire, pour permettre à chacun d'entre nous d'être connecté à la famille. Et je peux vous assurer de ceci, peut-être qu'aujourd'hui, vous sentirez peut-être pas l'effet d'être connecté à la famille, mais je peux assurer à 100% des personnes qui sont ici, un jour, dans le futur, ton futur te remerciera d'avoir été connecté avec la famille de Dieu, parce que la famille de Dieu peut et va sauver notre avenir. La famille de Dieu, c'est magnifique. La famille de Dieu, c'est parfois épouvantable. La famille de Dieu, c'est parfois très compliqué. La famille de Dieu peut nous créer parfois des troubles. La famille de Dieu, parfois, peut nous décevoir. Mais dans l'ensemble, c'est magnifique. Et je suis un produit dérivé ce matin de la famille de Dieu. Je peux le dire devant cette assemblée, j'ai été sauvé à plusieurs reprises dans ma vie spirituelle, grâce à la famille de Dieu. Et je veux dire merci à papa pour ses enfants. Amen. Alors, on va regarder ensemble à quel point être connecté à la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, la connexion assure notre protection. Tu es protégé. Quand tu es entré ici ce matin, peut-être que tu ne savais pas, mais tu es entré sous la protection de la famille. Tu es protégé par les gens qui sont autour de toi. Souvent, on ne réalise pas à quel point la famille, c'est quelque chose de bien quand on va bien. Quand on va bien, même c'est souvent dans ces temps-là, quand tout va bien, quand j'ai pas de problème dans ma vie, c'est souvent dans ce temps-là que les gens même s'éloignent de la famille. Les gens se déconnectent de la famille jusqu'au moment où tu vis un problème dans ta vie. Et pourquoi attendre d'avoir un problème pour se connecter avec la famille? Pourquoi ne pas le faire quand tout va bien? C'est pareil comme l'assurance-vie. Tu prends pas une assurance-vie quand tu es en train de mourir. Tu prends une assurance-vie quand ça va bien. Tu ne prends pas une assurance maladie quand t'es en pleine maladie, quand t'as plein de problèmes. Tu prends ça comme ça vient pour te protéger quand ça va aller mal. Et c'est exactement la même chose avec la famille de Dieu. L'ultime test de la famille de Dieu dans votre vie et dans ma vie, c'est quand ça va aller mal. Et je veux pas être négatif ce matin, mais je peux assurer à tout le monde ici, il va y avoir un moment, 30 secondes dans ta vie au moins, où ça va aller mal. Où il va y avoir des difficultés. Je sais que dans cette salle, il y a des gens... C'est compliqué en ce moment dans votre vie. Eh bien, j'aimerais vous annoncer, vous êtes au bon endroit. La famille de Dieu est un instrument de Papa Céleste pour te protéger. Vous avez le droit de dire amen? En fait, ce qui affecte notre vie spirituelle, c'est des épreuves, des maladies, des catastrophes, des situations hors de notre contrôle, des pertes d'emploi, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et c'est dans ces moments-là où tu ne t'attends pas nécessairement à ça, mais c'est dans ces moments-là que tout à coup, la famille de Dieu se manifeste. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, un passage magnifique. Ça dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, et s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Ici, quand ça parle, au verset 9, quand ça parle de « deux valent mieux qu'un », ça parle de synergie, et de réciprocité. C'est-à-dire que si je fais quelque chose seul, disons que ce matin, je suis seul pour faire le ministère. J'arrive ici, je suis seul, je sors ma guitare, je branche ma guitare, je trouve un moyen de connecter ça, je ne sais pas comment je m'en sortirais, mais bon, j'essaie de connecter, je sors ma guitare, je commence à chanter, je prêche, je fais la projection, en même temps, j'ai une pédale, j'appuie, les chants bougent, tout ça. Et finalement, je peux réussir à m'en sortir, peut-être. Mais, ben ça va se gâcher quand va arriver le temps du repas à la fin, là, ça va être compliqué. Mais, puisque quand on est plusieurs ensemble, il y a tout à coup une synergie. Et là, il se passe quelque chose qui exponentialise, qui multiplie. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux valent mieux qu'un. Dis à ton voisin, une chance, t'es là. Il se passe quelque chose quand on est les deux ensemble. Et là, il continue au verset 10, il dit, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, on va tomber, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit tomber dans le découragement, tomber dans des problèmes financiers, tomber dans la maladie, tomber dans le péché, tomber dans un échec, tomber dans quelque chose. Et là, c'est là que tout à coup, ça devient essentiel d'avoir des gens pour nous relever. Et la famille de Dieu, elle est là, établie par Dieu, pour te relever lorsque tu vas tomber. Juste une parenthèse pour dire, c'est pas normal un endroit où on empêche les gens de se relever. Juste une petite parenthèse comme ça en passant. Et j'aimerais t'expliquer ce matin à quel point, lorsque tu es connecté avec la famille de Dieu, tu es protégé. Tout à coup, il y a des gens que tu sais même. C'est ça qui est hallucinant, Pasteur Sophie, c'est que il y a des gens qui sont là. Je les vois pas nécessairement en ce moment, ou je les vois d'une certaine façon, et je ne sais pas que cette personne dans 6 mois, cette personne dans 2 ans, va être utilisée de Dieu pour me relever quand j'en aurai besoin. C'est pour ça que chaque personne autour de toi est hyper importante. Tu ne sais pas, ton futur peut être changé à cause de quelqu'un qui est dans la salle ici ce matin. C'est incroyable. Et c'est pour ça que quand tu te connectes avec la famille de Dieu, tu te places sous une protection. Et quand tu vas faillir, parce que ça va arriver d'une façon ou d'une autre, tu pourras dire, je ne suis pas seul, il y a des gens autour de moi qui pourront me relever. Et souvent, Dieu va se servir de quelqu'un qui a été relevé pour te relever. Il n'y a rien de mieux pour te relever que quelqu'un qui a déjà été relevé. Et c'est pour ça que quand tu es relevé, tu es en train de te préparer pour être un releveur. Je ne sais pas si ça se dit. Et tout ça passe à l'intérieur de la famille de Dieu. J'avais un pasteur ami, il y a quelques semaines de ça, avec qui je discutais. Je suis allé prêcher dans son église l'année passée. Il m'aurait invité cette année. Et il a vécu une histoire pendant le COVID. Il a vécu une histoire absolument complexe. C'est-à-dire que son fils était atteint depuis plusieurs années d'une maladie très, très, très grave. C'est trop long de vous expliquer les détails, mais maladie très, très grave. Et pendant le COVID, ça a dégénéré. Il est allé à l'hôpital et comme si ça n'allait pas déjà assez mal, il y a eu une erreur médicale majeure. Et il était entre la vie et la mort. Et plus personne, on ne sait plus quoi faire, tout ça. Et ils ont découvert qu'il y avait un spécialiste, ultra spécialiste aux États-Unis, en Californie, qui est un des seuls au monde qui peut opérer cette situation, mais c'était comme 200 000 ou 300 000 $ pour pouvoir l'amener là-bas. Et c'est un pasteur, vous savez la suite. Et donc, il dit, Luc, c'est une longue histoire, j'ai pas le temps de la raconter en détail, mais il dit, Luc, il s'est activé quelque chose d'hallucinant. Les gens ont commencé à lever des fonds, tout ça. On a levé 300 000 $ US par la famille de Dieu. Et ça a payé là-bas et il a été sauvé, il a été guéri. Wow! Et il me disait, Luc, ça fait des années, en fait, j'ai donné ma vie pour servir la famille de Dieu. J'avais aucune idée de la puissance qu'il y avait autour de moi. Jusqu'au jour où j'étais dans une détresse et la famille de Dieu s'est levée. Il a été protégé parce que des années auparavant, il s'est connecté, il a donné sa vie à servir la famille. Et quand il est devenu dans le besoin, la famille s'est levée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis ultra fortifié ce matin à cette pensée que vous êtes des instruments de mon futur, des instruments de Dieu pour mon futur, et j'espère en être un pour le vôtre également. Et c'est pour ça que ce matin, je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais si tu t'es éloigné de la famille de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour pour revenir te connecter à nouveau dans la famille de Dieu. Et si tu es quelqu'un qui vient à l'église le dimanche, c'est bien, mais aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à te connecter avec des frères, des sœurs, avec des gens extraordinaires dont tu ne connais pas encore la puissance qui est en eux pour ton futur, pour sauver ton avenir, pour te protéger dans le futur. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Galates chapitre 6, verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Wow! Quand tu portes les fardeaux de quelqu'un, quand tu aides quelqu'un à porter la charge, tu fais pas juste rendre un service à quelqu'un, tu accomplis la loi de Christ. Ici, ça parle, le mot fardeau, c'est le mot baros en grec qui veut dire poids ou une charge. Il y a plusieurs années de ça, je suis allé au Népal, j'ai fait une randonnée, un trek qu'on appelle jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5600 mètres d'altitude. Et on était une équipe d'une vingtaine de personnes. C'est extrêmement, quand tu arrives à partir de 4000 mètres, je t'assure que c'est compliqué au niveau de l'oxygène. Et on est en manque d'oxygène. Il y a une femme dans le groupe qui est tombée malade, qui était pas bien, qui était vraiment découragée, tout ça. Puis à un moment donné, elle s'est mise à pleurer, tout ça. Je suis plus capable d'avancer. Et j'ai vu, on avait des Sherpas avec nous, une équipe de porteurs. Le gars avait un méga sac, là, tu sais, un sac là, de, je sais pas, genre 40 kilos, là, gros sac qui transportait tout. Et j'ai vu le gars prendre le sac de la dame, petit sac de la dame, lui enlever, il l'a mis en avant, il avait le sac en avant, il avait son gros sac en arrière, puis il a juste mis sa main dans le dos de la dame, puis il l'a juste aidé à monter, comme ça. Et j'ai vu la dame avancer, et le soir, elle a rendu témoignage, elle a dit, ce monsieur-là, aujourd'hui, moi, s'il n'était pas là, j'arrêtais. Je ne pouvais plus avancer. Et grâce à lui, j'ai réussi à faire un autre bout de chemin. Et j'aimerais dire que dans ta vie, il va y avoir des personnes que Dieu va placer et qui vont t'aider à faire un autre bout de chemin. Peut-être que tu es cette personne ce matin qui a besoin de quelqu'un, et peut-être que tu es ce quelqu'un qui peut aider quelqu'un à avancer. Mais la beauté de la famille de Dieu, c'est soit qu'on reçoit, soit qu'on donne. Mais ensemble, connectés ensemble, on peut sauver notre avenir. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Sauver notre futur. Il y a une protection dans la famille de Dieu. La deuxième particularité de la famille de Dieu, de se connecter à la famille de Dieu, c'est que la connexion révèle mes dons. Un Pierre, chapitre 4, verset 10, un passage formidable, dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. » J'ai vu toutes les annonces ce matin, « S'il vous plaît, impliquez-vous », tout ça. Toute la réponse est dans ce passage ici. « Comme des bons dispensateurs », le mot grec « oikonomos »,« oikonomos », probablement quelque chose comme ça, ça veut dire « manager ». Dis à ton voisin, « t'es un manager ». Tout le monde ici est un manager. Et tu es le manager, le gestionnaire des dons que tu as reçus. Écoutez bien ceci. Dans le royaume de Dieu, Papa Céleste, le Père, nous a confié son royaume. Et il nous a donné la gestion de son royaume. Tout le monde ici, on a une portion du royaume de Dieu qui nous a été confiée. Et notre job, c'est de gérer la portion du royaume qui nous a confié. Comment on gère la portion du royaume? Avec nos dons. Oh, c'est bon. Là, parce qu'en fait, quand je me mets à parler de ça, je peux parler pendant des siècles. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me contrôle. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, qui viennent voir. Luc, je sais pas quoi faire avec ma vie. C'est quoi mon appel? C'est quoi mon rôle? Tes dons révèlent ce que tu dois faire. Dieu t'a donné tes dons pour que tu accomplisses sa volonté. Donc, quand tu libères tes dons, tu accomplis sa volonté. Et comment tu les libères? Tu les libères au service des autres. Le meilleur endroit pour libérer tes dons, c'est dans la famille. Si tout le monde ici dans cette salle, oh, ça serait incroyable, si tout le monde ici dans cette salle ce matin libérait les dons qu'ils ont reçus au service des personnes qui sont là. Parce que tes dons sont la solution pour quelqu'un. Quand tu as super mal aux dents, que c'est intolérable, es-tu content qu'il y en a un qui sait quoi faire avec ça? Et ce matin, l'idée, c'est pour te libérer tes dons. Le futur de tes dons dépend de la famille de Dieu. Par exemple, combien sont d'accord avec moi pour dire que Pasteur Ben, qui n'est pas avec nous ce matin, a une capacité au-dessus de la moyenne de chanter? Il a une capacité au-dessus de la moyenne. Il a en fait ce qu'on appelle ici le mot grec qui est utilisé, c'est le mot les grâces, dispensateur des grâces que vous avez reçues. Le mot grâce, c'est le mot charis, charis en grec qui veut dire une faveur ou un don. Pasteur Sophie, tu rappelleras à Pasteur Ben pour pas qu'il se prenne la tête que c'est un cadeau que Dieu lui a donné. C'est injuste que lui, il l'ait eu comme ça, mais c'est un cadeau que Dieu lui a donné. Lui, il est né avec ça. Il l'a développé au fil des ans. Mais il y a des gens qui développent, puis il n'y a rien qui se développe. Moi, ça fait des années que je développe la cuisine, puis laisse-moi vous dire, s'il y a... je ne le mets pas au service des autres, celui-là. Alors... il a reçu un charisme. Écoutez bien, c'est puissant. Il a reçu un charisme, une faveur de la part de Dieu dans le champ, entre autres. Il y en a d'autres, mais le champ. Le futur de ce charisme n'aurait jamais pu se développer dans sa douche. Disons qu'il chante dans sa douche. Il peut pas développer. Il peut pas libérer. Il faut qu'il mette au service des autres. Donc, il chante, commence à chanter dans les groupes d'enfants, commence à chanter dans une chorale, commence à chanter dans un groupe de jeunesse, commence à chanter dans l'église, tout ça. Et éventuellement, on en bénéficie. Et qu'est-ce qui a permis le développement de ce qu'il a reçu? Le futur. Aujourd'hui, son don, son charisme, le remercie de l'avoir libéré dans la famille de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le don est libéré. Le futur de son don. Et plus tu libères ton don dans la famille de Dieu, plus il prend de l'envergure, plus il est puissant, plus il glorifie Dieu. Pasteur Claude, pasteur de l'Église Nouvelle Vie globale, pasteur Claude a un charisme de croissance. Quand, pour ceux qui sont peut-être nouveaux, connaissent pas pasteur Claude, au début de son ministère, il voyageait dans les églises, il arrivait, il faisait des campagnes d'évangélisation du mercredi au dimanche. Il arrivait le mercredi, il y avait 30 personnes, le dimanche soir, il y avait 300 personnes. Et il s'est dit, qu'est-ce qui arriverait si, au lieu d'aller un peu partout faire ça, je faisais à la même place? Et il a un caractère, tu peux avoir quelqu'un d'autre qui va dire les mêmes choses, qui va essayer les mêmes stratégies, tout ça, et qui va avoir des moyens. Lui, c'est quelque chose que Dieu lui a donné. Quand il touche à quelque chose, il y a une croissance. Il y a un impact, il y a une croissance. Mais comment ça a été libéré, ça? Ça a été libéré en mettant ce don, ce charisme au service de la famille. Et ici, on fait partie, on est un fruit, on est une bénédiction, on bénéficie de ce charisme que lui, il a. Il est même pas ici pour en bénéficier. Il y a des gens à cette île qui en bénéficient. Ah, c'était là qu'il fallait dire amen, mais c'est pas grave. Donc, qu'arriverait-il avec ta vie, avec ce que tu as reçu, si, à partir d'aujourd'hui, tu faisais l'inventaire des charismes que tu as reçus et tu les mettais au service de la famille? On a besoin de tes dons. On a besoin, la famille a besoin. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire tant que tu ne libéreras pas ce que Dieu a mis en toi. Il y a plein de choses qui ne pourront pas arriver tant que tu ne libéreras pas ce que Dieu a mis en toi. Et je veux déclarer, aujourd'hui, c'est le jour de la libération. On donne naissance aujourd'hui au bébé que l'on porte. C'est-à-dire les dons que nous avons reçus. Tout le monde ici a reçu quelque chose. Vous avez le droit de dire amen. Vous êtes des managers, vous êtes des gestionnaires. Qu'est-ce que tu fais avec ton don musical? Qu'est-ce que tu fais avec ton don administratif? Qu'est-ce que tu fais avec ta capacité de cuisiner? Qu'est-ce que tu fais avec ta capacité d'empathie? Il y a des gens qui ont plus d'empathie. Il y a des gens que tu leur parles, naturellement, tu sais que quand tu y parles, ils t'écoutent pas. Il y a d'autres personnes que quand tu leur parles, tu te sens compris, tu te sens aimé, tu te sens... tu fais juste leur parler, ils disent rien, puis à la fin, t'es guéri. Moi, j'ai des gens comme ça dans ma vie qui, quand ça va très mal, je les appelle, ils disent presque rien, puis à la fin, je me suis donné des solutions. En fait, c'est comme un rebound. C'est vrai que ça va vraiment pas bien, tout ça, mais je sais que Dieu est fidèle, puis que si je continue... C'est... Amen! C'est un don! Il y a des gens que ils l'ont pas. Il y a des gens qui ont des... Oh, je vais dire quelque chose de bon. Il y a des gens que leur charisme, c'est de faire de l'argent. Ah, oh, les chanceux. Il y a vraiment des gens, moi j'ai des amis, j'ai des personnes comme ça, tu les mets à quelque part, tu les parachutes dans une ville quelconque, ils connaissent personne, un an plus tard, ils ont une business, puis ils ont de l'argent. Mais à toutes ces personnes, votre charisme, c'est pour la famille, que la famille dise « Amen ». C'est à cause de certaines personnes qui ont ce charisme qu'on peut bâtir des bâtiments, qu'on peut évangéliser dans le monde, qu'on peut envoyer des missionnaires. La famille bénéficie. La famille, les autres campus qui ont moins de ressources financières. Il y a des gens qui ont reçu un charisme, un don, qui ne vont pas nécessairement jouer ici. Mais que Dieu les a équipés pour aller dans des endroits plus reculés où c'est un peu plus complexe. Et eux, ils ont le don pour ça. Donc, ce que tu as reçu de la part de Dieu, quand tu es connecté à la famille de Dieu, tu sauves le futur des dons qui sont en toi en les mettant au service des autres. Quelqu'un dit un amen convaincant ce matin. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. La connexion sauve la destinée. Il y a une histoire dans la Bible, ce matin, on n'a pas le temps dans les détails, mais il y a deux personnages dans l'Ancien Testament. Il y en a un qui s'appelle David, le roi David, on le connaît. Et il y a son ami, son frère spirituel, Jonathan. Ce qu'il faut savoir, c'est que David avait le charisme pour diriger la nation. Il avait vraiment tous les dons, la faveur de Dieu pour être le leader du pays. Et c'est pour ça que le roi Saül, qui était le leader à ce moment-là, devient extrêmement jaloux de David. Et ça, il y a tout un principe de leadership que je ne vais pas enseigner ce matin. Mais il y a des gens qui sont jaloux de ce que tu portes. Tu ne l'as même pas libéré encore. Mais ils sont jaloux de ce que tu portes. Donc, à ton travail, des fois, si tu as des gens, des collègues de travail, un patron, des fois, qui te fait du trouble, c'est souvent à cause de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Toi, tu ne le réalises pas. Tu portes ton futur et eux sont troublés, pas par ton présent, sont troublés par ton futur. Et donc, le roi Saül est troublé par le futur de David. Et normalement, c'est son fils Jonathan qui doit devenir le roi, la succession. David, techniquement, naturellement, ne peut pas devenir le roi du pays, mais Dieu a décidé qu'il devenait le roi du pays. Juste une parenthèse pour te dire, quand Dieu a décidé quelque chose pour toi, personne ne pourra l'empêcher. Et donc, il va se connecter avec Jonathan. Et Jonathan n'est pas en compétition avec David. Jonathan est en connexion avec David. Ça, c'est bon. Et c'est pour ça que dans le ministère, dans le service pour Dieu, on serait tellement plus puissant si on était en connexion plutôt qu'en compétition, où je l'ai dit. Si je connectais les dons que j'ai reçus, l'appel que j'ai reçu, avec ton appel, avec son appel, avec ce que lui ou elle a reçu, on devient une puissance. Malheureusement, pas ici à la Prairie, mais ailleurs, parfois, c'est le contraire. Je vais dans des églises où tu sens la compétition entre les ministères. Celui qui prêche le mieux, celui qui chante le mieux, celui qui fait la meilleure cuisine, celui... Vous savez, dans les buffets d'église, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le visible, c'est l'invisible. Dans les buffets d'église, il y a toutes les dames, les messieurs qui ont préparé leur table. Et là, tout le monde sont en train de checker qui vient à ma table, qui vient à ma chambre. Les sandwichs, comment ça qu'ils mangent juste les sandwichs d'elle, puis ils mangent pas... Ça serait un autre sujet pour une autre fois, ça aussi. Mais tout ça pour dire que parfois, il y a de la compétition. Pas ici, je sais qu'il n'y en a pas ici. Mais parfois, il y a de la compétition. Elle chante plus souvent, c'est la chouchou du pasteur. Après ça, pourquoi lui, elle, un tel? Pourquoi le pasteur a remercié plus longtemps elle et moins longtemps? Et il y a la compétition. Saül est en compétition avec David, qui, en fait, aurait pu être une méga bénédiction pour lui. Et Saül va gâcher son futur à cause de son esprit de compétition. Tandis que Jonathan va sauver son futur, même après lui, à cause de sa connexion. Quand tu te connectes... Ah, c'est trop bon. En fait, mon problème, c'est que quand je prends, je vois tout défiler dans ma tête. Je peux pas le dire assez vite, tout ce que je vois défiler. C'est pour ça, des fois, que... Mais à cause de sa connexion avec ce que Dieu veut. Dieu veut David, parce que longtemps avant, Dieu avait dit, c'est toi, au travers le prophète Samuel, c'est toi le futur. Donc, quand tu te connectes, rappelez-vous, tout est une affaire de connexion. Quand tu peux pas dire, il y a des gens comme ça, moi j'aime Dieu, mais je veux rien savoir des chrétiens. Il y a des gens comme ça, moi j'ai des gens, ah moi Dieu déçoit jamais, Dieu est parfait, mais l'Église, je veux rien savoir. Ça marche pas comme ça, tout est connecté. Donc, quand tu es connecté avec Dieu, est-ce qu'il y en a deux ou trois dans cette salle qui sont connectés avec Dieu? Quand tu es connecté avec Dieu, tu devrais automatiquement être connecté avec ce que Dieu veut. Donc, il y a des gens qui sont connectés. En fait, il y a des gens qui vont à l'église, qui aiment Jésus, mais la vraie façon de savoir si tu es connecté avec Dieu, c'est quand tu es connecté avec ce qu'il veut. Et Dieu veut la famille. C'est son épouse. C'est pareil comme le jour d'un mariage, tu as l'époux, tu as l'épouse qui est là le jour des noces. Et là, t'as les amis de l'époux qui viennent, qui disent, « En tout cas, toi, t'es gênant, t'es mon ami, mais je veux rien savoir de ta femme. » Il va y avoir une drôle d'atmosphère dans la salle. Si t'aimes le gars, même si tu la trouves bizarre, tout ça, faut que t'aimes la femme du gars. C'est comme ça. Un bon truc, messieurs, si tu veux que ton ami t'invite souvent chez eux et qu'il t'aime vraiment et que, dit, quand tu vas chez ton ami, célèbre son épouse. Célèbre l'épouse du pasteur. Si tu célèbres l'épouse du pasteur, t'es sûr qu'il va répondre à tes emails. Là, je suis en train de dégénérer, mais c'est vraiment bon ce que je suis en train de dire. Là, je sais pas si on va redire ça dans la deuxième réunion. C'est pour ça qu'il faut assister aux trois réunions. Tu sais jamais ce qui va sortir. Tout ça pour dire ce matin que quand t'es connecté avec Dieu, t'es connecté avec son épouse, t'es connecté avec sa famille et t'es connecté avec ce qu'il veut. Donc, Dieu veut David. Et donc, Jonathan s'est connecté avec David. Et regardez bien à quel point ça a sauvé le futur, ça a sauvé sa destinée. C'est un des plus beaux récits de la Bible. Écoutez, on va lire ensemble 2 Samuel chapitre 9, verset 1. On va avoir fini dans 35 minutes. 2 Samuel 9, 1. David dit, là, Jonathan est décédé. Il est même plus là. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. En fait, une des choses que vous devez savoir quand vous étudiez l'histoire de l'Ancien Testament, et même au travers de l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, ce n'était pas rare à l'époque, lorsqu'il y a un nouveau roi en place, que si c'est un nouveau roi, il fasse éliminer la compétition. Donc souvent, il faisait tuer tout, au travers de l'histoire, ça s'est propagé, tu fais tuer tous les fils, tous les autres, pour être sûr qu'il n'y en a pas un à un moment donné qui se lève puis qui vienne te voler qui fasse un coup d'État. Donc, normalement, surtout avec ce que Saül a fait vivre à David, Saül a menacé David, a voulu le tuer, il a rendu la vie misérable. Et David a dit, maintenant, c'est moi le roi, on élimine la famille. Mais à la place, à cause de quelque chose que Jonathan a fait avant, il s'est connecté avec David, avec ce que Dieu veut, des années auparavant, ça a sauvé son fils avant que lui-même soit décédé. Incroyable. Et en plus, son fils a un scénario de vie pour être certain à l'époque que t'es fini. Il est handicapé. Il aurait fini normalement mendiant dans la grosse misère. Mais regardez bien au verset 6. Et Mephibosheth, c'est le nom de son fils, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna et dit, David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai, imagine l'affaire, là. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. C'était le roi. Pouvez-vous imaginer combien de terres il y avait? Je te donne toutes les terres de ton père et tu mangeras toujours à ma table. Et se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes à un chien mort tel que moi? Mephibosheth a une estime de lui-même fini. Je suis handicapé, je suis pour rien, je suis fini, tout ça. Et à la place de finir mort ou mendiant, il va finir sa vie riche avec les terres de son père Saül, que normalement David n'est pas obligé du tout de lui donner. Et à tous les jours, il va faire partie du jet set. Il mange à la table du roi à tous les jours, sécurisé, protégé, alors que Jonathan n'est même plus là. La postérité de Jonathan a été bénie, protégée, sauvée à cause de sa connexion avec David. Wow! Et c'est exactement ce qui va t'arriver, mon ami, ce matin. Le jour où tu te connectes avec la famille de Dieu, il y a quelque chose qui va arriver. Je termine avec ceci. La semaine passée, j'ai tourné un podcast avec un ami en France. On l'a fait en différé, tout ça. Un gars extraordinaire. Et à chaque fois que je le vois, on se connaît maintenant, ça fait plusieurs années, à chaque fois que je le vois, et là, pendant qu'on enregistrait, je le regardais dans la vidéo, je me disais, Dieu, faut pas que tu vois Dieu uniquement dans aujourd'hui. Il faut tout le temps voir Dieu dans la grande image. Dans la grande image, c'est au travers des années. Il y a des choses qui ont l'air insignifiantes aujourd'hui et qui auront des répercussions dans le futur. C'est pour ça que chaque jour compte, chaque geste compte, chaque décision compte, chaque prière, chaque geste d'amour, chaque chance, tout compte dans le royaume de Dieu. Et il y a plusieurs années, J'étais en France, je finissais une tournée, c'était là, j'ai fait comme 10 jours avec des réunions, ça n'arrête plus, tout ça. Et le dimanche midi, on finit la réunion, je vais manger avec le pasteur, je me dis, oh, c'est fini, j'ai tout donné ce que j'avais cette semaine, demain je prends l'avion, je rentre au pays, j'ai bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, t'as tout donné. Et là, le pasteur, comme le font souvent les pasteurs en France, pas juste en France, mais particulièrement en France, Luc, ce soir, ce soir, il y a un groupe qui se réunit dans un camp de ski, dans les montagnes, tout ça. Mais c'est pas tellement loin d'ici. Puis, il serait vraiment content si tu pouvais y aller, tu vois. Ah, non! En fait, ça me fait plaisir, mais là, je suis fatigué. Pas aujourd'hui. En fait, ça se passe dans ma tête, lui, il sait pas. J'ai tout donné. Là, en fait, une des choses que j'ai appris dans le ministère, c'est toujours plus qu'on pensait. C'est toujours plus loin que tu pensais. C'est toujours moins bon que tu pensais. Et donc, finalement, je me dis, OK. T'sais, après tout l'après-midi, je me dis, ah, au lieu de faire ma valise, me reposer ce soir, je vais faire... Et comme je l'avais prévu, c'est vraiment loin. C'est genre 1h30, 2h dans les montagnes. Et ce que tu fais en allant veut dire que tu devras le faire en revenant. Là, je me dis, c'est pas possible, on va rouler 2 heures pour parler à un petit groupe de personnes, puis revenir encore 2 heures. J'ai tout donné cette semaine. Et là, on roule, tout ça. Et finalement, on arrive au camp de ski. Et c'est une petite salle avec 12 chaises. Il n'y a pas de système de son. Il n'y a rien. Et là, finalement, tu vois les skieurs arriver. On fait du ski toute la journée. Ils arrivent, ils s'assoient, ils remplissent les... Au moins, s'ils avaient rempli les 12 chaises, mais il y avait peut-être 7 personnes et demie, tu sais, quelque chose comme ça. 8 personnes. Là, ils s'assoient. Et là, je sors ma guitare et je leur fais une soirée. Ma guitare, je chante, tout ça. Et je donne tout ce que j'ai. Et on a un moment divin. Parce que vous savez, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Ça, c'est le verset qu'on utilise seulement quand il n'y a pas de foule. Dans un stade, il y a jusqu'à 50 000 personnes. Vous savez, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, oh, personne ne cite ce verset-là dans les stades. C'est toujours le pauvre pasteur qui arrive dans une salle vide. Et donc, finalement, je retourne. Ce que je ne sais pas, c'est que parmi les 8 personnes, 7 personnes et demie qui étaient là, il y a un gars qui est là, qui ne veut pas être là. Je n'étais pas tout seul. Il y a un gars qui était là, qui voulait pas être là, qui est un jeune homme qui est profondément loin de Dieu. Il est loin de Dieu, mais ses parents sont chrétiens et il va à l'église à l'occasion, tout ça. Et il veut pas venir au camp de ski, mais la famille de Dieu, les amis chrétiens du groupe de jeunes, insiste et finalement l'amène au camp de ski. Donc, la raison pour laquelle il est au camp de ski, c'est pas parce qu'il veut être là, c'est la famille le presque forcé. Et là, le soir, il a skié toute la journée, il veut aller manger puis se coucher. Mais la famille, viens, il y a un Canadien qui est là, viens! Et là, il insiste, et il se retrouve dans la salle avec les 8 personnes. La raison pour laquelle il est vraiment là ce soir-là, c'est 100% à cause de la famille. Parce qu'il est connecté, même s'il va super mal, il est connecté. Et finalement, ce soir-là, il dit, Luc, j'ai été transporté. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te servir toute ma vie. C'est fini le niaisage. Je te donne ma vie pour toujours, Seigneur. Et le gars, aujourd'hui, tout le monde l'appelle Piyou, c'est le directeur artistique de l'église Momentum en France, de l'église du pasteur Patrice Matarano. Il est... Piyou a révolutionné l'église Momentum au niveau artistique, les vidéos avec Dan Lutten, tout ça. C'est un truc de fou. Et c'est à cause, et cette semaine, on faisait un podcast ensemble qui va sortir dans quelques semaines, c'est à cause de la famille. C'est la famille qui m'a traîné dans la montagne. C'est la famille qui l'a traîné dans la montagne pour un rendez-vous divin avec Jésus. Et c'est la famille qui t'a amené ici ce matin dans le nom de Jésus. Alors, comment sauver ton avenir? Connecte-toi aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui de te connecter avec le Père et te connecter avec la famille. Et si vous ne faites pas partie d'un groupe Nouvelle Vie, c'est pas juste une autre affaire dans l'agenda. J'ai pas le temps. Non, c'est mon avenir a besoin. Mon avenir a besoin que je me connecte avec la famille spirituelle ici à la Prairie. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes, fermer les yeux? On va terminer par une prière ce matin. Mephibosheth. Mephibosheth a été sauvé à cause de Jonathan qui s'est connecté avec David. C'est incroyable. Tes enfants. Ça fait plusieurs années maintenant que je sers le royaume de Dieu. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de prêcher aux jeunes à Nouvelle-Vie à Longueuil. Il n'y a pas longtemps de ça, j'ai prêché aux jeunes à Nouvelle-Vie à Longueuil. Et il y a une dame qui est venue me voir le dimanche. Elle m'a dit, Luc, merci. Mon fils est venu à Jésus vendredi. Cette fille-là était dans mon groupe de jeunes il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle a un fils et il a été touché. Parce que il y a 20 ans, 25 ans, elle s'est connectée avec la famille. Et l'instrument que Dieu s'est servi il y a 25 ans, Dieu s'en sert encore 25 ans plus tard pour toucher son fils. Ce que tu fais aujourd'hui va se refléter dans l'avenir. Alors, pendant que nos yeux sont fermés, le temps avance, on va terminer dans un instant. Pendant que nos yeux sont fermés, si tu es ici ce matin, la première fois, la centième fois, peu importe, et tu dis, Luc, aujourd'hui, je prends la décision. Pour certaines personnes, c'est de se connecter avec le Père. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais été connecté avec le Père céleste. Tu dis, je veux me connecter avec le Père. Aujourd'hui, je prends la décision de ne pas être juste quelqu'un qui va à l'église, mais je veux me connecter avec la famille spirituelle. Tous ceux qui prennent cette décision de se connecter avec le Père ou se connecter avec la famille spirituelle, levez votre main devant le Seigneur. Pas devant moi, c'est avec Dieu que vous vous connectez ce matin. Levez vos mains partout dans cette salle, ceux qui prennent cette décision. Je me connecte avec la famille spirituelle. J'arrête de m'isoler. J'arrête d'être à l'écart. Je fais des gestes concrets pour me connecter avec la famille spirituelle. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? On va simplement chanter ce chant. Je bâtirai ma vie. Et après, on va faire une prière ensemble, une prière de connexion. Et j'ose croire par la foi ce matin que ce message ne sera pas un message en vain. Ce matin, il y a des gens qui vont poser des gestes. Il y a des gens qui vont se connecter avec des gens. Il y a des gens qui vont se sentir interpellés à aider des gens dans ce lieu ce matin. Amen. Alors, on le chante, on le déclare, on le proclame. Je bâtirai ma vie de tout notre cœur. On le chante.